Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12-30, Christelle Robière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce mardi 20 juillet, la Belgique pleure ses morts. Le pays s'est figé à midi pile en hommage aux disparus et à ceux qui ont tout perdu dans les inondations de la semaine dernière. L'exécutif assouplit peu à peu sa poigne de fer sur les futures restrictions sanitaires. Nous verrons ce qui peut changer pour les centres commerciaux. Et pour les personnes vaccinées cas contact, elles pourraient ne plus l'être, a dit Olivier Véran, le ministre de la Santé, ce matin sur RTL. Deuxième jour de traque du côté de Gréolières dans les Alpes-Maritimes. 170 gendarmes tentent de retrouver cet homme soupçonné de féminicide. Le maire du village lui a demandé de se rendre. Dans RTL Midi aussi, la triste saison des abandons. Les refuges de la SPA débordent et cette année, ils accueillent énormément de chats, ce qui est assez inédit. La météo, bonjour Peggy Broche.
Bonjour Christelle.
On est passé d'un extrême à l'autre en une semaine à peine, notamment à Brest où il fera 31 degrés aujourd'hui.
Et oui, c'est vrai que c'est de la chaleur pour tout le monde. La température la moins chaude cet après-midi, 25 degrés du côté de Biarritz ou de Metz, 27 au Havre et à Lille, 28 à Dijon, 29 à Paris comme à Nice, 32 à Nantes et Limoges, 33 à Toulouse, 34 à Montpellier. Alors côté ciel, il fait encore très beau, alors même si quelques nuages se forment cet après-midi, notamment au pied des Pyrénées avec un risque d'averse orageuse qui pourrait déborder en pleine en soirée. Quelques gouttes possibles également sur le relief des Alpes ou de la Corse. Vers la Picardie, un peu plus de nuages que ce matin. Entre la Normandie et la frontière belge, il pourrait y avoir également quelques nuages. Et notez qu'il y a 4 départements en vigilance orange crue, les Ardennes, la Marne, l'Aisne et désormais l'Oise est également en crue.
Le milliardaire Jeff Bezos s'envoie en l'air dans l'espace avec 3 autres personnes à 100 km au-dessus de nos têtes. D'où la question du jour. Rêvez-vous de voyager dans l'espace? Vous êtes 10% à nous dire oui. Il y a 88% de non. J'attends vos arguments au 32-10. Visiblement, vous aimez bien voir les pieds sur Terre. Nous dialoguerons ensemble entre 13h et 14h.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Journée de deuil national en Belgique. Le pays s'est figé pour une minute de silence à midi pile. Les pluies diluviennes qui ont dévasté la Wallonie ont coûté la vie à 31 personnes. 70 autres sont toujours portés disparus, en particulier à Verviers où le roi, la reine et le premier ministre viennent de présider la cérémonie d'hommage. Valentin Boisset.
Oui, les sirènes des secours ont retenti dans toute la Belgique à midi. Un pays figé dans les rues, dans les commerces, en hommage aux disparus. À Verviers, le roi en personne s'est déplacé dans cette caserne où je me trouve en costume. En privé, il s'est longuement penché sur des enfants sinistrés. Une petite fille a fondu en larmes devant lui. L'un de ses enfants a pris la parole.
Je suis triste parce que la ville est détruite. Je souhaite qu'on aide les gens dans le besoin en donnant à manger, à boire et de quoi se couvrir.
Le roi s'est lui positionné devant le drapeau belge, mais pas de discours. Dans les rues sinistrées, il n'y a évidemment plus de télé. Alors les habitants se sont regroupés devant des téléphones dans les rues pour regarder la cérémonie.
Je pense que c'est nécessaire en mémoire et par respect pour les personnes qui sont décédées. C'est catastrophique pour la Belgique.
C'est important qu'ils viennent ici.
Je pense que c'est la ville qui a été le plus touchée au niveau personnes disparues et décédées. Et puis oui, la Belgique est forte. On sortira vivant de tout ça et on sera plus fort pour la prochaine fois.
Demain, autre cérémonie à Bruxelles. Cette fois-ci, c'est la fête nationale en Belgique. Mais de nombreux engins militaires n'y participeront pas car ils sont toujours engagés sur le terrain.
Valentin Boisset en direct de Verviers pour RTL. Angela Merkel, elle, est attendue tout à l'heure dans une commune sinistrée de Rhénanie du Nord-Westphalie. La 4e vague de Covid est bien là. Olivier Véran, le ministre de la Santé, l'a confirmé ce matin sur RTL tout en expliquant que c'était actuellement une épidémie de jeunes avec surtout des 15-40 ans. Ils développent moins de formes graves mais sont plus vulnérables au Covid long. Le nombre d'hospitalisations a progressé de 40% en une semaine. Quant aux personnes doublement vaccinées, le ministre de la Santé compte assouplir les règles si elles sont cas contact.
Quand vous êtes doublement vacciné, le risque résiduel d'être touché par le Covid, d'être contaminé, est très faible. Et le risque de faire des formes graves est encore beaucoup plus faible que celui-ci. Ce que nous dit le Haut Conseil de Santé publique, c'est que lorsque vous êtes doublement vacciné, c'est-à-dire que vous êtes à 7 jours de votre deuxième injection, les règles pourront évoluer en matière de cas contact. J'ai resollicité les autorités scientifiques en leur disant est-ce que le contexte épidémique et la contagiosité du variant Delta changent la donne ou non. Ce qui pourrait être acté, c'est que lorsque vous êtes totalement vacciné, vous ne seriez plus cas contact, sauf des situations comme vivre dans le foyer de quelqu'un, dans la même maison que quelqu'un qui est malade, parce qu'il a des risques quand même de finir par vous contaminer, même si le risque résiduel est très très faible.
Olivier Véran, interrogé ce matin par Stéphane Carpentier. Le port du masque ne sera plus obligatoire pour le public dans les lieux où l'entrée est conditionnée au pass sanitaire, sauf si la situation épidémique locale l'exige. Ce sera le cas à partir de demain dans tous les lieux de culture et de loisirs, mais pour l'instant, le masque reste obligatoire dans les entreprises. On l'entend, le gouvernement tâtonne, affine et assouplit, notamment sur les centres commerciaux soumis au pass sanitaire. Quelles vont être les nouvelles règles, Arnaud Touche ?
Alors, ce qui est clair pour l'instant, c'est que le pass sanitaire ne s'appliquera pas pour tous les centres commerciaux comme le souhaitait initialement le gouvernement. Ce projet il a été retoqué hier par le Conseil d'État, mais le gouvernement n'abandonne pas l'idée du pass sanitaire pour autant. A priori, cela concernerait donc les centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés. Actuellement, ils sont environ 400 en France. Ensuite, il y a deux cas. Si vous êtes dans une zone délimitée, il y a des commerces qui ne sont pas dans le centre commercial et qui permettent d'acheter par exemple des produits de première nécessité, des denrées alimentaires ou des pharmacies. Eh bien, dans ce cas-là, le pass sanitaire s'applique au centre commercial. A l'inverse, si le centre est un lieu indispensable pour les biens de première nécessité dans une zone définie, eh bien, il ne sera pas soumis au pass sanitaire. Enfin, dernière précision, la présentation du pass se fera à l'entrée du centre et non dans chaque boutique d'une galerie, évidemment, sinon ce serait compliqué à gérer. Et le début de cette nouvelle mesure, ce sera pour début août. On ne connaît pas encore début tout août. À fait la date exacte, voilà. Mais début août.
Il n'y a pas encore de date, c'est à affiner ça aussi. Merci Arnaud Touche. Pas d'assouplissement en revanche sur l'obligation de vaccination des soignants et il s'y réserve. Peu à peu. Bonjour Patrick Chambourdon.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'Ordre national des infirmiers. Avez-vous une idée de la proportion des soignants qui se sont fait vacciner depuis le discours d'Emmanuel Macron il y a 8 jours?
Alors l'idée de la proportion, ce matin Olivier Véran était sur votre antenne et il a effectivement donné pas pu donner de chiffres puisque c'est très difficile, on agit à la fois par sondage et par recensement, c'est quand même le secret médical d'informer si on est vacciné ou pas, mais nous ce qu'on observe au plus près du terrain au travers des conseils départementaux et régionaux de l'ordre, c'est qu'il y a une tendance lourde et que les professionnels à l'instar, pas que des infirmiers mais tous les soignants sont de plus en plus nombreux à aller se faire vacciner et remplissent les créneaux de vaccination.
Que vous disent-ils ?
Ah ben, ils nous disent que finalement l'obligation maintenant, alors que c'était ouvert depuis janvier dernier pour les soignants, a obligé un peu, parce qu'on voit bien les restrictions qui arrivent avec le pass sanitaire, a obligé les soignants à y aller plus volontiers.
Oui, mais ça veut dire qu'ils le font avec amertume ?
Alors, pas amertume, mais c'est une question de responsabilité. On l'a rappelé, Olivier Véran l'a rappelé, déontologique pour le coup, mais aussi morale, altruiste. C'est toutes les problématiques qui sont réapparues là, à chaque fois, c'est réaffirmé par Emmanuel Macron, qui permettent justement d'y aller. Il y aura toujours une frange d'irréductible, et on est en train, nous, d'objectiver les données qu'on a au travers d'une grande consultation qu'on a lancée. On n'a pas encore dépouillé, mais on a déjà eu 80 000 réponses en 48 heures, je crois.
Est-ce que vous essayez de convaincre justement, vous, de votre côté, les irréductibles ?
Tout à fait, parce que c'était un peu l'idée de la tribune qu'on avait fait avec Olivier Véran et les employeurs la semaine dernière, où on avait une deadline et c'était le début du compte à rebours qu'on a lancé avec Olivier Véran. C'est-à-dire qu'on s'est engagé à soutenir l'obligation vaccinale en sachant qu'il y aurait un processus réglementaire avant cette obligation, puisque là le texte va passer à l'Assemblée nationale et au Sénat et il y a déjà eu une discussion au Conseil d'État. Et donc on a lancé le compte à rebours pour, dès la mise en effet, en application des décrets des décrets et du texte, donc on peut penser en septembre. Donc nous, on a convoqué les infirmiers, on a fait de l'information, ce soir encore une visio avec Olivier Véran, on en a eu avec Alain Fischer, on a fait des informations aux professionnels, on a tordu le cou aux fake news de façon à apporter toute l'information, la clarté nécessaire. Et puis, on est en train, grâce au gouvernement aussi, qui a sa task force sur la vaccination, à donner plus d'informations sur les effets secondaires, ce qui est le plus redouté finalement par les infirmiers qui sont la population générale aussi.
Bien sûr, donc vous faites aussi de la pédagogie. Au fond, et ce sera ma dernière question, est-ce que vous pensez qu'il fallait en arriver à une obligation ?
Mais on voit que ça porte ses fruits, donc je suis très mitigé là-dessus. Là, finalement, on a lancé un compte à rebours. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, nous, en tant qu'organisation qui représentons l'ensemble des infirmiers, on voit l'effet de cette obligation à la fois en France, où il y a plus qu'un frémissement, en Italie aussi. Mais on sait que cette mesure-là, elle sera aussi liée à l'obligation vaccinale population générale, puisque la montée dans les réa de l'occupation, la montée des contaminations, ça veut dire que l'ensemble des Français, on aura atteint un taux de couverture minimal dans la population générale, donc qui va permettre de
Bien sûr. Donc c'est l'affaire de tous. Merci Patrick Chambaud-Redon, président de l'Ordre national des infirmiers. À bientôt. Et il y a de plus en plus, parallèlement, de trafic de faux passes sanitaires. Ainsi, une pharmacienne du Val-de-Marne proposait à la vente de faux certificats de vaccination, 250 euros pièce, avec un complice. Ils sont tous deux mis en examen et incarcérés. Mais c'est elle qui était véritablement au cœur du système, Vincent Serrano.
Oui, puisque c'est son nom qui apparaît sur la plupart des certificats saisis par les policiers, plus d'une cinquantaine au total des documents édités dans le centre de vaccination du Val-de-Marne où elle officie depuis plusieurs mois et notamment le 22 juin et le 16 juillet dernier, les deux dates qui reviennent le plus souvent sur ces faux certificats de vaccination retrouvés dans une pochette et au domicile d'un homme d'une vingtaine d'années qui a fait croire aux policiers qu'il les avait récupérés pour un voyage de groupe. Coup de fil des enquêteurs qui n'y croient pas à la sécurité sociale, ce qui leur permet de remonter et d'interroger sept personnes et la surprise, ce sont pour la plupart des parents qui avaient peur de transmettre quelque chose à leurs enfants, besoin de falsifier un pass sanitaire et deux femmes qui ont trouvé sur le réseau social Snapchat cette annonce, faux certificat de vaccination pour 250 euros. Le complice et cette pharmacienne dorment en prison et risquent jusqu'à 10 ans de prison et 750 000 euros d'amende.
Récit Vincent Serrano. Dans un instant, nous partons à Gréolières dans les Alpes-Maritimes où la traque d'un forcené se poursuit.
RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Deuxième jour de traque dans les zones escarpées autour du village de Gréolières dans les Alpes-Maritimes pour retrouver cet homme soupçonné de féminicide et qui avait tiré ensuite sur un gendarme. Ce matin, le maire, qui le connaît bien, lui a demandé de se rendre. Étienne Baudu, vous êtes sur place pour RTL.
Oui, le maire, Marc Malfatto, les traits tirés par cette insoutenable attente, s'adresse directement au fugitif.
Si Marc peut nous écouter, bien évidemment, c'est de rentrer à la maison. Ses parents sont désespérés. Il faut qu'ils rentrent en déposant les armes et affrontent ensuite cette réalité. Mais il vaut mieux l'affronter avec sérénité, sérieux, courage. Tout le monde pense à lui ici.
En attendant, les recherches se poursuivent sur un terrain de moyenne montagne, très compliqué, vaste, avec une végétation extrêmement dense jusqu'à mi-pente et de nombreuses cavités. Un habitant me disait que lui-même, pourtant chasseur, s'était déjà perdu dans ces escarpements, d'où un quadrillage de la zone par les gendarmes et d'importants moyens déployés. Le colonel Jean-Michel Dose, adjoint au commandant du groupement de gendarmerie des Alpes-Maritimes.
Nous faisons beaucoup appel aux hélicoptères pour faire des déposes de personnel sur les secteurs difficiles d'accès. Nous avons également des unités cynotechniques avec des chiens spécialisés dans les recherches de pistes, en particulier les Saint-Hubert qui ont un odorat très développé et qui nous permettent de prendre des pistes plusieurs jours après le passage d'une personne.
Avec évidemment d'extrêmes précautions dans ces recherches, le fugitif est armé et il n'a pas hésité dimanche à tirer sur un gendarme du GIGN.
Un jeune homme de 21 ans qui avait été lynché vendredi à Villefontaine en Isère par une dizaine de personnes a succombé à ses blessures. Il y avait eu une bagarre sur un point de deal. La procureure de la République en appelle au civisme des habitants du quartier de Fougères pour identifier les auteurs de ce crime. Une enquête a été ouverte à Paris ce matin sur l'espionnage de journalistes français pour le compte de l'État marocain. Le logiciel israélien Pegasus avait infiltré leur téléphone. Le Maroc conteste ces accusations. Deux journalistes de Mediapart ont déjà porté plainte. Il va tutoyer les étoiles en apesanteur. Après Richard Branson, Jeff Bezos, l'homme le plus riche de la planète, va jouer les Amazones à 100 km de la Terre. À ses côtés, son frère Mark, une pionnière de l'aviation, Walkie Funk, 82 ans, et un jeune homme de 18 ans, le premier client payant de Blue Origin. 10 minutes de vol et d'ivresse. Mais en réalité, Sophie Jousselin, Jeff Bezos a des projets beaucoup plus grands encore.
Oui, vous savez, Jeff Bezos est un passionné d'espèces depuis qu'il est tout petit. C'est d'ailleurs un des points communs qu'il a avec son grand rival Elon Musk, le patron de SpaceX, et ce petit saut à 100 km au-dessus de la Terre qu'il s'apprête à faire, c'est juste un apéritif pour le milliardaire dont l'ambition est d'aller beaucoup beaucoup plus haut et plus loin, puisque son grand projet, c'est de construire des colonies dans l'espace. Jeff Bezos sait que la Terre n'arrivera pas à régler ses problèmes énergétiques, à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Donc ce qu'il propose, c'est de déplacer les activités polluantes, comme l'industrie, dans des colonies habitées en orbite autour de la Terre, des sortes de gigantesques stations spatiales. Elles ne seraient pas loin de la Terre, facilement accessibles d'un petit coup de fusée, d'où l'intérêt du vol d'aujourd'hui. Alors Bezos regarde aussi vers la Lune. Fin 2019, il avait dévoilé une maquette de son projet Blue Moon, un atterrisseur pour transporter du matériel sur la Lune dans le cadre du projet de la NASA. Mais il a été écarté par l'agence américaine au profit, devinez de qui ? d'Elon Musk.
Et oui, justement. Alors, rêvez-vous de voyager dans l'espace? C'est la question du jour sur RTL.fr, sur laquelle j'attends vos témoignages au 3210. Et vous, Sophie, eh bien, vous reviendrez dialoguer tout à l'heure avec les auditeurs. Les défenseurs de l'environnement s'inquiètent d'une possible pollution dans l'espace, d'autant que les émissions mondiales de CO2, première cause du réchauffement climatique, devraient atteindre un niveau jamais vu d'ici 2023 et continuer à progresser. Les plans de relance des pays riches consacrent trop peu de budget aux énergies propres. C'est un triste classique de l'été, les abandons d'animaux battent tous les records. La SPA de Strasbourg est débordée de chats et elle cherche désespérément des familles d'accueil. Les félins sont victimes à leur façon du Covid et du déconfinement, Yannick Collant.
Oui, dans ce refuge de la SPA de Strasbourg, la chatterie est pleine. Les abandons se sont multipliés ces dernières semaines.
Là, on a tous les chats qui viennent d'arriver. Donc, vous voyez, des pièces avec des chats en cage. Parce qu'il faut qu'on les vaccine, qu'on les stérilise, qu'on les identifie.
Catherine Brunner est la responsable chenil. Elle a remarqué que l'épidémie de Covid avait accentué ce phénomène.
Ça a un effet accélérateur à la sortie du confinement, parce que tout le monde est pressé de reprendre une vie d'avant. Donc, les chats qui gênent parce que on veut partir en vacances, puisqu'on n'a pas réfléchi avant d'adopter, ben ceux-là, ils vont se retrouver chez nous. Vous avez les changements de situation professionnelle aussi, les divorces, les personnes qui se retrouvent au chômage. Donc, toutes ces personnes-là ont des difficultés financières, ne peuvent plus assumer leur chat. De toute façon, à partir du moment où il y a un chamboulement dans une société, les animaux en payent le prix.
La SPA de Strasbourg qui a lancé un appel aux familles alsaciennes. Manon a fini par convaincre ses parents de venir adopter Basboussa, un petit chaton gris.
J'en ai parlé à maman et elle a pris le temps de réfléchir. C'est pas une décision qu'on prend comme ça.
Nous, on repart en vacances, hein, mais par contre, il y a quelqu'un qui vient garder le chat à la maison, c'est ma maman.
C'est déjà prévu depuis le début.
Voilà.
Mais la SPA de Strasbourg cherche encore des dizaines de familles pour faire face à cette situation d'urgence.
Et j'attends vos témoignages au 3210. Notez que le président de la SPA, Jacques-Charles Fonbonne, dialoguera avec vous dans trois quarts d'heure. L'empereur du Japon, Naruhito, assistera vendredi à la cérémonie d'ouverture des Jeux de Tokyo. Une cérémonie sans public avec seulement quelques centaines de personnalités. Le stade va sonner un peu creux. Et c'est finalement assez symbolique de cette grande fête du sport qui s'annonce à minima. Isabelle Langer, vous êtes l'envoyée spéciale d'RTL à Tokyo. Et pour les athlètes aussi, le village olympique n'est pas franchement convivial.
Comment vous dire, Christelle? Esthétiquement, il n'y a rien à dire. Le report des Jeux a permis à la végétation de pousser et les athlètes peuvent profiter de jolis jardins à la japonaise. En revanche, Covid oblige, ils sont soumis à certaines règles. Le plus contraignant, le port du masque à longueur de temps dans le village et quelques situations du coup cocasses. Jean-Charles Valaudon, vice-champion olympique de tir à l'arc.
C'est sûr que quand on se croise dans l'ascenseur avec un masque, tu es obligé de regarder sur l'accréditation si tu veux voir la tête entière de celui qui a la toile. L'ascenseur, c'est des choses qui sont un peu particulières, donc on perd vraiment un petit côté sympathique autour de ça.
Le pire étant certainement, selon Jean-Charles Valaudon, qui dispute quand même ses troisièmes JO et donc il sait de quoi il parle, eh bien le pire étant la cantine où des plexiglas ont été installés sur les tables afin que chaque personne qui mange soit comme dans une boîte.
Au self, c'est un peu le côté où tout le monde se retrouve ensemble. Tout le monde mange à côté de n'importe qui, que tu sois une grande star, que tu sois un petit sportif, que tu sois français, que tu sois des quatre coins du monde. Mais le fait de nous cloisonner comme ça, on enlève vraiment tout le côté, on va dire, humain de ce partage des Jeux Olympiques.
Et pourtant, aujourd'hui, le Comité international olympique a modifié sa devise à plus vite, plus haut, plus fort et désormais ajouté ensemble pour soi-disant souligner l'esprit de solidarité pendant les moments difficiles, notamment cette période de pandémie. Ensemble, certes, mais à distance, comme ces conférences de presse avec les athlètes, d'où, comme vous avez pu l'entendre, un son qui n'est pas vraiment parfait.
On vous souhaite bien du courage. Merci en tout cas Isabelle Langer en direct de Tokyo. Et vous allez nous faire vivre ces Jeux sur RTL jusqu'au 9 août. Dans un instant, la chronique du jour dans RTL Midi sur les traces de Napoléon Bonaparte.
RTL Midi
avec Christelle Rebière.
Cette année 2021, c'est le bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte. Alors nous vous proposons chaque mardi de cet été une excursion dans les hauts lieux de son épopée, qui est aussi une incursion dans le passé. Aujourd'hui, deuxième étape dans l'Aube, à Brienne-le-Château, Samuel Goldschmidt.
Dans les pas de l'empereur.
Samuel Goldschmidt sur RTL.
Dans les plaines de la Champagne humide, le château se voit de loin. Brienne, le château donc, accueille aussi l'une des 16 écoles militaires de l'armée royale. Elle est pour les rejetons de petite noblesse, des argentés. Charles Bonaparte a obtenu des bourses pour financer de solides études à ses enfants. Et c'est donc là qu'il emmène un jour son deuxième fils. David Chantran est le conservateur du musée Napoléon de Brienne.
Napoléon arrive ici à Brienne-le-Château. Il n'a pas encore donc 10 ans et nous sommes alors le 15 mai 1779. L'école a été créée pour former les élites militaires de la nation et pendant ces 5 années, il apprend les rudiments du travail d'un officier, c'est-à-dire l'escrime, la danse, la stratégie, le dessin, bien sûr toutes les matières essentielles que sont les mathématiques, la littérature évidemment.
Premier choc pour ce petit Corse, les accents nouveaux. Le sien va lui valoir un accueil acide et un surnom fameux quand on lui demandera de se présenter. Jean-Marc Olivesi est le conservateur de la Maison Napoléon à Ajaccio.
Alors je pense qu'il prononçait Nabulione et Bonaparte. Nabulione et la Paillonnée.
Le collège, en quelque sorte, la discipline est stricte, les professeurs sévères, les distractions rares, et le jeune Lapaillonné ne reverra ni sa famille ni son île natale pendant 5 ans. C'est donc sans doute là, dans ces 6 jeunes années, qu'il va se forger un caractère d'acier.
Étant un peu solitaire par la force des choses, parce qu'on se moque à la fois de cet accent, mais aussi de son teint un peu olivâtre, il est finalement victime d'une sorte de racisme à l'époque, eh bien, il va se complaire dans la lecture, travailler d'arrache-pied et devenir l'un des meilleurs élèves, en particulier en mathématiques. On sait très peu de choses finalement sur la vie quotidienne de Napoléon lui-même, si ce n'est, effectivement, la fameuse bataille de Boule de Neige, sans doute 1780 ou 1781. Les deux camps étaient opposés, l'un des camps allait perdre la bataille. Et le jeune Bonaparte, qui était toujours un peu à l'écart, un peu solitaire, voyant comment ça allait se passer, eh bien là, il a montré la stratégie qu'il fallait adopter. Et du camp qui allait être vaincu, eh bien, il en a fait un camp vainqueur par une stratégie qui annonçait, si l'on peut dire, les futures victoires d'Austerlitz, de Iéna ou de Wagram.
Il ne reste plus grand-chose de l'école militaire détruite à la Révolution, mais assez pour abriter des pièces magnifiques dans le musée Napoléon, veillé par Jean-Marc Livet de l'Association des Amis du Musée.
Il suffit de représenter à bicorne, sans visage, sans rien. Le monde entier sait que c'est Napoléon Ier. Donc vous avez ici à Brienne un des bicornes restants, un vrai bicorne de la chapellerie Poupart, porté par Napoléon et ici à Brienne depuis de nombreuses années.
L'empereur, au soir de sa vie, a couché la ville sur son testament. Il a toujours gardé un coin de son cœur pour se passer rue des formateurs. Cela se voit aujourd'hui sur l'hôtel de ville.
Alors cet hôtel de ville a été créé avec le legs de Napoléon Ier, versé par Napoléon III. Et cet hôtel de ville est le seul hôtel de ville en France avec un fronton napoléonien. Donc vous avez la tête de l'empereur et puis au-dessus un aigle.
Liberté, égalité, fraternité.
Sur les drapeaux qui sont sur le côté, mais pas sur la façade.
Devenu empereur, il repassera à Brienne sur la route pour se faire couronner roi d'Italie. Hasard dont l'histoire a le secret, il y mènera aussi une de ses dernières batailles, la Rotière, en 1814. Elle attire encore les collectionneurs 2 siècles après.
Moi, je vois assez souvent des gens munis de détecteurs de métaux, avec l'autorisation des propriétaires, rechercher des boulets, des pièces de monnaie, des extraits d'uniformes ou d'armes sur tout le territoire entre La Rotière et Brienne-le-Château, donc en train de fouiller dans les champs.
Diplômé de Brienne à 15 ans et 2 mois, il ira ensuite à l'école militaire de Paris se perfectionner dans l'art du tir au canon. L'artilleur Bonaparte saura s'en souvenir quand il volera de bataille en bataille jusqu'aux collines d'Austerlitz.
C'est l'été sur RTL, on regarde la carte météo de Peggy Broche dans un instant.
RTL. RTL Midi.
La météo, Peggy Broche, on garde les tongs et la crème solaire.
Et oui Christelle, parce que c'est encore une très belle journée estivale. Alors c'est vrai, cet après-midi un petit peu plus de nuages que ce matin, mais ce sont des nuages de beau temps souvent entre la Normandie et la frontière belge par exemple, avec une petite ondée possible vers la Picardie, mais vraiment pas grand-chose. Un petit risque d'averse en montagne également cet après-midi sur le sud des Alpes, la montagne Corse et au pied des Pyrénées. Au pied des Pyrénées où un coup de tonnerre est possible. Et puis les averses orageuses pourraient toucher, mais uniquement en soirée, l'Aude et l'Ariège. Le ciel est un petit peu plus voilé cet après-midi, également au sud du Massif central, mais ça reste très beau, hein, tout ça. C'est juste, ce sont juste quelques petites nuances histoire de vous dire que le ciel, voilà, n'est pas tout bleu comme ce matin. Et puis les températures, elles sont chaudes. Hein. À Langres, par exemple, 25 degrés, 27 à Cherbourg, ainsi qu'à Strasbourg et Reims, 29 à Grenoble, Caen, Paris et Nevers, ainsi qu'à Tarbes, 32 à Perpignan, 33 à La Rochelle, Montauban, Marseille et Bastia, et même 35 degrés à Nîmes. Et je tiens à vous signaler qu'il y a 4 départements en vigilance orange crue. Alors toujours les Ardennes, la Marne et l'Aisne qui sont en décrue puisque le temps est sec, hein, mais la crue en fait se propage. Mmh. Et du coup l'Oise est également passée en vigilance orange crue.
Donc méfiance. Et demain, tout pareil ?
Tout pareil, encore du beau temps, du beau soleil, de la chaleur. Petit bémol le matin sur la côte aquitaine avec un petit peu de grisaille persistante par endroit l'après-midi. Quelques nuages qui pourraient donner quelques gouttes dans l'après-midi sur tous les reliefs. Et puis des températures stationnaires encore comprises entre 26 et 35 degrés. On aura encore très chaud demain.
Merci Peggy. Il est 13h sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Christelle Robière.
Et nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Je suis ravie de vous accueillir au 3210 pour commenter l'actualité. Les soignants se font vacciner en masse. Une semaine après le tour de vis d'Emmanuel Macron, n'hésitez pas à témoigner si vous êtes convaincu ou résigné ou farouchement contre encore. On peut parler aussi du tourisme spatial puisque Jeff Bezos, le milliardaire américain, part dans l'espace à 15h pile. Et puis le drame des abandons. La SPA n'a déjà plus assez de place pour accueillir cet été les chiens et les chats. Bonjour Christophe.
Bonjour.
On va parler de vaccins avec vous. Vous êtes kiné et vous êtes contre ?
Non, je suis contre, j'ai bien précisé, contre celui-ci obligatoire. C'est-à-dire j'ai fait tous mes vaccins obligatoires. Mes enfants, je suis praticien, donc j'ai aussi l'hépatite B. Mm-hmm. Mais je suis contre le vaccin du Covid obligatoire.
On va y revenir dans un instant. Le rappel des titres tout de suite. La quatrième vague est là, confirmation d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, ce matin sur RTL. Mais il y aura des assouplissements. Le port du masque ne sera plus obligatoire pour le public dans les lieux où l'entrée est conditionnée au pass sanitaire, sauf si la situation épidémique locale l'exige. Le ministre souhaite aussi que les personnes totalement vaccinées ne soient plus considérées comme cas contact à l'avenir. Un commissaire, à l'instant mis en examen pour homicide involontaire, il s'agit de Grégoire Chassin. Il était chargé du dispositif policier au moment de la chute dans la Loire de Steve Maya Canisso. C'était à Nantes en juin 2019. Ce dernier conteste les motifs. Une minute de silence à midi pile. Un pays figé, moins d'une semaine après les inondations qui ont coûté la vie à 31 personnes. La Belgique rend hommage aux victimes. Le roi Philippe et le Premier ministre se sont recueillis à Verviers, à la caserne des pompiers de cette commune durement touchée. 70 personnes sont toujours portées disparues. Ils vantent l'unité et l'esprit collectif. Le parti Les Républicains réunit tout à l'heure 5 candidats potentiels à l'élection présidentielle, mais n'y figure pas le principal prétendant, Xavier Bertrand. Il n'appartient plus au parti et ne souhaite pas participer à une primaire. Deuxième jour de traque du côté de Gréolière dans les Alpes-Maritimes. 170 gendarmes tentent de retrouver cet homme soupçonné d'un féminicide. Le maire de ce village lui a demandé de se rendre. 10 minutes en apesanteur à 100 km au-dessus de nos têtes, le milliardaire américain Jeff Bezos s'envole à 15h à bord de sa fusée New Shepard avec 3 autres personnes à bord. Son frère, un jeune néerlandais de 18 ans et une doyenne de 82 ans, l'une des pionnières de l'aviation américaine. Plus qu'un tourisme spatial, il veut vraiment construire une route vers l'espace.
Et les petites histoires olympiques ? Jean-Michel Rascol sur RTL.
Et chaque jour dans RTL Midi, nous vous racontons l'épopée des Jeux Olympiques autrement. En 1984, après 24 ans de disette, l'équipe de France de basket se qualifie pour les Jeux de Los Angeles. La compétition qui doit marquer le renouveau du basket tricolore va tourner au fiasco à cause, en partie, d'une mésaventure qui implique Richard Dacoury et un coiffeur pas très dégourdi. Jean-Michel Rascol.
Un coiffeur anglais, adepte de la coupe au ciseau, a pesé sur les performances de l'équipe de France de basket dans le tournoi olympique de Los Angeles. Un récit que nous livre Richard Dacoury, le meilleur joueur français de l'époque, dans son fauteuil.
Je déambulais comme ça, je traînais dans les rues à essayer de regarder ce qui se passait. On venait d'arriver, donc tout était beau et je vois par bonheur un coiffeur ouvert. Donc je rentre, à l'époque j'avais un afro, en tout cas une coupe de cheveux un petit peu
Bref, dans une coupe afro. Et à l'époque, on rêvait tous d'un formidable athlète que vous connaissez tous, qui s'appelle Carl Lewis, qui avait une coupe de cheveux, vous rappelez un peu la Grace Jones, avec les tempes très plates et puis au-dessus de la tête assez haut. Je me rappelle très bien, il y avait un coiffeur anglais qui me vend, là, c'est fait au ciseau, presque cheveux par cheveux, je veux faire un truc aux petits oignons. Bref, il m'embarque dans son délire, et puis je m'assieds, me faisant rattraper un peu par le sommeil, sous le tchitchak du ciseau. Et puis d'un coup, je me réveille en sursaut de cette semi-torpeur et je me rends compte que je vais être à la bourre. En fin de compte, le gars, sur les 45 minutes de coupe de cheveux qu'il m'avait vendu, on est à une 45 et il a fait que la moitié de ma coupe, donc j'ai peu importe, je pars comme ça. C'était assez pitoyable. Puis la suite va être un peu douloureuse pour moi.
En retard pour disputer un match d'entraînement, Richard et les frères Beugnot, qui ont pris eux aussi quelques libertés avec les horaires, sont privés du match de rêve France-États-Unis avec Michael Jordan et les futures stars du basket mondial.
J'ai mis 30 ans à digérer cette sanction-là. C'était très douloureux à voir sur le banc de touche et j'aurais tellement aimé pouvoir les jouer. Ça aurait été merveilleux vis-à-vis de moi, ça m'aurait donné des souvenirs fantastiques, alors qu'aujourd'hui, cette période-là, pour moi, ce qui aurait dû être une fête est devenu un cauchemar et quelque chose que j'en parle aujourd'hui avec beaucoup plus de légèreté, voire même j'arrive à en sourire, mais sur le moment, ça m'a vraiment pesé, hein, vraiment pesé.
120 à 62, 58 points d'écart, les Américains infligent à la France la plus lourde défaite de son histoire. Les Bleus perdent leurs 5 matchs avec en point d'orgue une bagarre générale contre l'Uruguay. Le DAC, Richard Dacoury, quittera la Cité des Anges avec la coupe de Carl Lewis, mais aussi une main cassée.
Merveilleuse histoire olympique racontée par Jean-Michel Rascol avec la mise en onde de Spencer Clairefeuille.